Bonsoir, merci d'être là. Le groupe de recherche théorique, comme la plupart d'entre vous le savent, mais peut-être pas absolument tous, donc je me permets de le rappeler, est un programme dont nous avons pris l'initiative et qui est le résultat d'une coordination entre, d'une part, l'école doctorale 3, c'est-à-dire l'école doctorale littéraire de Paris 4, Paris, de l'Université Paris-Sorbonne, et d'autre part, le tout nouvel Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. Cette activité est, depuis quelques semaines, maintenant se développe avec une collaboration assez étroite avec le groupe Fabula. Je remercie beaucoup de s'y être associé. Ce programme, vous le savez, repose sur deux piliers, enfin, qui sont deux volets de travail. D'une part, une série de conférences publiques, dont c'est ce soir la deuxième, et puis aussi des séances de travail qui se situent entre ces conférences et où nous essayons de nous livrer à une élaboration un peu plus collective, un peu plus partagée, et donc aussi un peu plus incertaine, qui détermine sa marche étape après étape. En revanche, le programme des conférences, que vous avez probablement sous les yeux, sinon je pense qu'il est disponible là sur une des tables, le programme des conférences comporte 8 conférences qui se sont, dont la première a eu lieu le 26 septembre et la dernière aura lieu le 22 mai. Lorsque nous avons imaginé ce programme de conférences, parmi les souhaits, on n'a pas réussi à faire droit à tous nos souhaits, mais il y avait un certain nombre de souhaits qu'on a réussi à faire figurer activement dans ce programme, et un de ses souhaits était de juxtaposer exactement sur le même plan des chercheurs très avancés dans leur recherche, en particulier grâce à l'âge, et qui parfois ont acquis une très grande notoriété nationale ou internationale. C'est le cas par exemple de Judith Butler, de Bernard Stiegler, de Michel Deguy, qui sont dans notre programme, et aussi des chercheurs beaucoup plus jeunes qui sont à leurs premiers travaux, que ces travaux aient été déjà publiés ou soient en cours de publication. Et c'est dans ce cadre que j'ai pensé à demander à Marcello Vitali Rossati d'être des nôtres, et je lui souhaite très chaleureusement, très fraternellement la bienvenue. Mais enfin, il connaît bien la maison et il connaît bien ce travail. Marcello a travaillé à Pise, en grande partie, où il a fait sa thèse de philosophie récemment soutenue et qui a été préparée sous la direction du professeur Adriano Fabris, en philosophie, au département de philosophie de l'Université de Pise. Et il a déjà publié un ouvrage en italien sur Lévinas qui s'appelle... Réflexion et transcendance, c'est ça, Réflexion et trascendenza, qui est publié aux éditions ETS à Pise, mais qui n'est pas encore publié en français. Il se trouve que le cours de la vie a fait que j'ai assisté à la soutenance de la thèse de Marcello, qui était une réflexion qui se développait à partir de Merleau-Ponty, une réflexion strictement philosophique, mais qui, à partir d'une lecture de Merleau-Ponty, s'ouvrant dans ce mouvement, poser un certain nombre de questions qui sont des questions qui concernent la pensée contemporaine, la pensée d'aujourd'hui et peut-être la pensée de demain. Et parmi ces questions, Marcello interrogeait à sa façon le concept, la notion, le mot de virtuel dont vous savez bien que nous l'entendons souvent et dans toutes sortes de contextes en ce moment. Et comme une des préoccupations du GRT, pourquoi ce souci d'associer des générations de chercheurs très différentes, ce n'était pas simplement pour équilibrer les âges et pour faire un programme qui est comme ça une espèce de balancement apparent. Bon, c'était aussi parce que ce que nous cherchons ici, c'est évidemment une pensée qui vient, une pensée à venir, ou une pensée venante, voire une pensée avenante. Pensée qui nous arrive d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, il n'y a aucune garantie de cela, par quel âge que ce soit. La pensée de demain peut se trouver dans les pages de théoriciens très chenus, vénérables, voire voire disparu depuis longtemps. Mais il nous faut aussi, enfin, nous souhaiterions aussi essayer de savoir comment les réflexions d'aujourd'hui s'élaborent, se cherchent lorsqu'elles sont aux prises avec des problèmes qui sont dans notre vie commune. C'est pourquoi Marcello est notre ce soir. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté de présenter cette conférence et puis de le faire en français, parce que Marcello parle français, comme vous allez l'entendre, qui est de très grande qualité, mais ce n'est pas sa langue, et en particulier ce n'est pas sa langue spéculative. Les ouvrages de Marcello sont écrits en italien, et je l'ai entendu s'exprimer en philosophie dans les deux langues, et il est vrai que ces passages ne sont jamais neutres. Et donc je le remercie beaucoup d'avoir bien voulu transférer cette réflexion et la présenter devant nous ce soir. Voilà, à toi.
Merci. Bon, je prends le...
Vas-y.
Bon, merci Dani. Et j'espère que la traduction puisse au moins passer, hein, que ça soit compréhensible. Bon, je vais commencer déjà pour une considération préliminaire à propos de mon titre et à propos du mot resémantiser que j'ai utilisé et que peut poser des problèmes. Pourquoi déjà resémantiser et non pas définir, par exemple, qui pourrait apparaître plus normal, plus banal? Qu'est-ce que j'entends par resémantiser? La resémantisation, se base sur, on part d'une signification existante, d'un terme qui a déjà une signification, pour aller à la recherche d'une signification plus authentique, plus vivante. C'est ça ce que j'entends. C'est un parcours, donc, c'est un parcours ouvert. Ça veut dire vraiment aller à la recherche de la signification d'un mot. Par contre, définition est quelque chose de mort, qui est déjà là, de figé. Donc ça signifie définir quelque chose, ça signifie de le reporter dans des limites bien précises et donc de le bloquer. Et ce n'est pas le cas de le faire pour un concept comme celui de virtuel, qu'on va le voir dans mon petit discours, j'espère, à voir avec la dynamique, le dynamisme. Bon, c'est une traduction d'une antonyme grecque. Donc, pourquoi enfermer ce qui paraît être ouvert et dynamique? Voilà. J'ai donné un petit schéma, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais bon, pour que ça soit plus facile de suivre mon argumentation. Bon,
est-ce que vous l'avez? Il est. On peut le faire passer là. T'as une seconde. Le programme, c'est moins urgent, on fera après le programme. Mais le petit programme, on le fera après.
C'est peut-être utile pour suivre un peu voilà. Ce que je vais dire. Hein. De point à un point. Donc, je commence avec mon premier point. Pourquoi le virtuel? Quels sont les intérêts de ces concepts? Et surtout, je voulais dire une chose que je n'avais pas pensé avant. Un concept, c'est un terme que peut-être il ne faudrait pas utiliser là aussi. Parce que concept, c'est aussi un terme qui fait penser à quelque chose de figé. Hein. Levinas n'était pas du tout d'accord avec concept. Il préférait utiliser idée ou notion. Je l'ai utilisé comme ça, un peu dans son sens banal, concept, mais peut-être c'était mieux de parler d'idées, des virtuelles ou des notions, parce que sinon on essaye de ne pas la bloquer et on la bloque en disant que c'est un concept. Bon. Quels sont les intérêts, mais surtout quels sont mes intérêts par rapport au concept de virtuel? Je crois que c'est un avou par lequel je dois commencer, parce que seulement comme ça, c'est possible de suivre le développement de mon idée et de mon discours. Je suis arrivé au concept de virtuel en me posant la question du rapport entre corps et pensée. Bon, c'est un problème assez évident, un problème que tout le monde se pose, surtout dans le XXe siècle. Si une grande partie de la philosophie du XXe siècle a essayé de libérer la pensée de l'abstraction que l'avait caractérisée depuis Descartes. Et donc, bon, la pensée est une pensée absolument abstraite du corps, et donc une pensée qui n'a rien à voir avec la matérialité, une pensée pure. La critique que Merleau-Ponty, par exemple, qui est un auteur que j'ai un peu étudié, la critique que Merleau-Ponty faisait à ce type de pensée était qu'on peut l'appeler une pensée de survol, c'est-à-dire que comme elle est abstraite, elle essaye de voir le monde du dehors, donc et le risque est que ça devienne une pensée des surfaces, une pensée que, pour voir le monde du dehors, rate la signification la plus profonde du monde. Et donc, il était nécessaire de remettre en liaison le corps avec la pensée. C'est ce que beaucoup, une grande partie de la philosophie du XXe siècle a essayé de faire. C'est ce que l'existentialisme, par exemple, mais Heidegger aussi, ont essayé de faire en parlant de emplacement du corps. La pensée est liée, chez Heidegger, à l'être là. On est là. Donc, la pensée n'est pas abstraite, elle est placée. En italien, j'utilise le mot collocazione, qui me plaît bien et qui n'a pas une traduction en français, il paraît. Parce qu'on me disait que placement, ça donne un peu l'idée du placement en banque. Et je pourrais traduire peut-être par situation, dans le sens d'être situé. Les virtuels mettent en crise ces concepts parce qu'ils opèrent, dans son sens le plus banal, le concept de virtuel opère une déterritorialisation. Ça, c'est évident. Et donc, par exemple, la critique que Michel Serres fait au concept d'être là, il dit, ça n'existe plus, on ne peut pas parler d'être là, on est toujours hors là. Or là, évidemment, il prend la catégorie d'un conte de Maupassant. Or là, c'est un être bizarre qui est présent, mais qu'on ne peut pas voir. On est toujours hors là, parce qu'il y a une virtualisation qui opère cette déterritorialisation. Donc l'espace ne peut pas être utile pour placer la pensée, pour la rendre plus concrète. Voilà. Alors je me suis demandé, il faut voir si le virtuel effectivement met en crise ces rapports corps-pensée. En deuxième lieu, mon petit point B, j'ai pensé que peut-être le virtuel, si d'une part il met en crise le rapport entre corps et pensée, donc la façon de rendre plus concrète la pensée en la lien avec le corps, de toute façon le virtuel peut être utilisé comme une catégorie interstitielle. Ça veut dire comme catégorie de milieu, et peut-être utile dans ce sens-là. On verra qu'on a toujours affaire avec deux pôles quand on parle de virtuel, deux pôles peut-être opposés, peut-être pas absolument opposés, mais qui deux pôles de toute façon. Et donc je pensais que peut-être le virtuel comme catégorie interstitielle, comme catégorie de milieu, pouvait être utilisé pour réinterpréter le rapport entre corps et pensée qu'il mettait pourtant en crise. Voilà. En troisième lieu, les troisièmes intérêts, c'est évident, c'est un intérêt que j'ai appelé socio-culturel. Évidemment, on vive dans un monde qui est fortement caractérisé par ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Donc, on pense à Internet, par exemple, on pense à la réalité virtuelle. Réalité virtuelle qui, la définition dans le sens plus strict et dans le sens plus large. Dans le sens plus strict, c'est seulement la digitalisation des expériences et des sensations. Donc, une sensation peut être digitalisée et après gérée par l'ordinateur. C'est ça la réalité virtuelle en sens strict, mais on peut entendre par là aussi, par exemple, le jeu électronique, on dit comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a affaire avec ce type de virtuel, ce sens un peu plus banal, non philosophique du terme, seulement social du terme? Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Par exemple, je faisais l'exemple, je vais utiliser quelques exemples qui ne sont pas qui ne sont pas parfaits, parce que quand on fait un exemple, on perd toujours des choses, et parfois c'est les choses les plus importantes. Mais il faut que je fasse des exemples, parce que sinon on ne va pas comprendre et mon discours va rester trop abstrait. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pendant une opération virtuelle? Il y a un chirurgien quelque part, par exemple, à New York, je vais faire cet exemple-là, et un patient sur un lit à Paris. où arrive l'opération, à New York, à Paris, où est le patient, à New York, à Paris, comment définir avec des coordonnées cartésiennes la position du patient et du chirurgien, et voilà. Bon, c'est des questions normales, hein, c'est l'intérêt social du concept. Qu'est-ce qui se passe quand on est devant Internet et quand on parle, par exemple, avec une personne qui n'est pas là? C'est une virtualisation opérée du téléphone aussi, plus simplement, du portable encore plus. Mais Internet pose la question de façon un peu plus forte. Et les définitions existantes du concept de virtuel ne suffisent pas, selon moi, parce qu'on a toujours affaire, ou bien avec des spécialistes qui se sont occupés surtout du côté social du terme, et donc la société virtuelle, les communautés virtuelles et tout ça, Internet, et voilà, et donc quel est l'essence sociale du concept, et d'autre part des spécialistes, des philosophes qui se sont occupés du terme, mais seulement du point de vue strictement philosophique, surtout parce que le virtuel lié aux nouvelles technologies n'existait pas quand ils écrivaient. C'est le cas par exemple d'Aristote qui a inventé, on peut dire, les termes. C'était pas virtuel, c'était du natum, mais virtuel est une traduction. Et c'est le cas de Deleuze, qui est le dernier, qui écrivait dans les années 60, quand la réalité virtuelle est née, entre guillemets, dans le 85. Le terme a été utilisé la première fois dans le 85, je crois. Et Internet, bon, il vient de se développer là maintenant, hein, en 95. Donc là, l'explosion d'Internet, c'est il y a 10 ans. Voilà. Donc il faudrait mettre un peu ensemble ces deux significations, l'une plus philosophique, l'autre plus sociale. Voilà. Pour ce faire, je vais aborder le terme par son histoire. Donc, on a dit Aristote. Aristote utilisait le terme dunaton qui a causé toute cette confusion. Donc, c'est dunaton le terme, la cause de tout ça. Dunaton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses chez Aristote. Ça veut dire... bon, c'est vraiment hein, pour la cause legetai. On le dit de plusieurs façons. Ça a plusieurs des significations. Mais je veux en dire seulement une, celle qui nous intéresse. Dunaton est ce qui a évidemment une dynamis. Qu'est-ce que c'est? C'est un principe de mouvement qui se trouve dans une chose ou dehors d'elle. Là aussi, on voit tout de suite qu'on a deux pôles. Bon, dit Aristote, dunaton est ce qui a une capacité ou bien de faire quelque chose ou bien de subir quelque chose. Par exemple, un autre exemple que je vais utiliser, c'est l'exemple d'Aristote, donc c'est peut-être mieux que le mien. Et il fait l'exemple de l'architecte qui construit une maison. Donc, dunaton est le fait que l'architecte a la capacité de construire des maisons, et dunaton est aussi le fait qu'une maison a la capacité d'être construite. Aristote parle de capacité de prendre une forme. Voilà. Donc voilà, deux pôles, architecte, maison. On va voir tout le temps deux pôles. On passe à Thomas, Thomas d'Aquin, que j'ai choisi entre beaucoup de philosophes de la scolastique qui ont dû traduire de quelque façon dunaton. Et ils l'ont traduit d'habitude ou bien par possibilis, ou bien par potentialis, ou bien par virtualis. Je ne vais pas faire l'histoire de ça, mais je vais faire pour Thomas aussi seulement deux exemples dans lesquels il utilise le terme virtualis. Donc, virtuel, c'est la virtualité, par exemple, d'une science par rapport à ses principes. Dans les principes, il y a une science virtuelle parce que ça suffit de développer les principes pour avoir la science. Là, dans ces cas-là, la virtualité est une virtualité de la science. Donc, deuxième pôle, principe, science. Virtualité de la science d'être développée à partir des principes. Voilà. Et c'est pour ça que Thomas dit la science, évidemment, est plus parfaite par rapport aux principes, parce qu'elle est développée. Les principes, par contre, ont la science encore non développée. Voilà, donc capacité d'être développée de la science.
D'autre côté, un autre exemple tout à fait différent, même si un peu, bon, il y a évidemment des ressemblances, c'est virtualité, c'est la virtualité de la création en Dieu. Et là, c'est exactement le contraire de Paul, Dieu, création, mais c'est évidemment, c'est la capacité, la virtualité de Dieu de créer. Donc, le virtuel, dans le premier exemple, se trouve dans le deuxième pôle, la science. Dans cet exemple, se trouve en Dieu. C'est Dieu qui est capable de créer. Et en fait, évidemment, Thomas dit que la création virtuelle en Dieu est plus parfaite, évidemment, de la création. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de ces concepts après? Je passe directement, évidemment, il y a une histoire qui lit ça, mais je passe directement au philosophe le plus important pour mon discours, que c'est évidemment Gilles Deleuze, qui a fait du virtuel une notion fondamentale de sa pensée. Déjà, pour Deleuze, le problème est de ne pas opposer le virtuel au réel, comme on pourrait faire comme ça dans le sens banal. Virtuel est ce qui n'est pas encore réel, ce qui deviendra réel, mais ne l'est pas encore. Bon, Deleuze commence par dire, je cite, « Le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais seulement à l'actuel. Les virtuels possèdent une pleine réalité en tant que virtuels. Les virtuels doivent même être définis comme une stricte partie du réel. » Donc, fin de citation, c'était une différence de répétition. Et donc, les réels est fait par les virtuels. Dans les réels, il y a virtualité et actualité. Donc, il y a ces deux termes qui sont en rapport l'un avec l'autre. Donc, il ne faut pas penser non plus que le virtuel s'oppose vraiment à l'actuel. Parce que le virtuel, chez Deleuze, et là, j'interprète Deleuze un peu de façon anti-deleuzienne, donc tous les deleuziens me critiqueront sûrement, et ils ont raison, peut-être que j'ai mal compris, mais de toute façon, ça c'est pour... aller pour avancer dans mon discours que j'utilise Deleuze comme ça. Je suis conscient que c'est une forçature, on le dit,
c'est un forçage.
un forçage, bon, à la pensée de Deleuze. Hein. Bon, le rapport avec l'actuel, le virtuel est l'autre côté de l'actuel. Tout actuel, là, je cite de dialogue, tout actuel s'entoure d'un brouillard d'images virtuelles. La virtualité est une multiplicité qui structure, là aussi c'est un terme qui n'est pas deleuzien, qui structure l'actuel. Le structure en quel sens? Que cette multiplicité donne visibilité à l'actuel. Elle est derrière l'actuel et elle le rend possible, elle le fait apparaître. Donc, virtuel est une multiplicité dynamique, il y a l'idée de dynamique, qui permet la présence de la différence dans l'actuel. Donc, c'est la possibilité de différenciation de l'actuel qui est opérée par ce brouillard d'images virtuelles, okay, qui reste derrière l'actuel. Problème. Moi, je crois que ce rapport entre actuel et virtuel soit un peu... ça ne me satisfait pas, en fait. Parce que je crois que c'est... le virtuel finit par être une possession de l'actuel. Donc, l'actuel, c'est le propriétaire. Parce que c'est lui qu'on voit. On voit l'actuel, c'est là. Et derrière, oui, il y a un brouillard d'images virtuelles desquelles on peut parler seulement parce qu'on parle de l'actuel, en fait. C'est ça qui me gêne un peu chez Deleuze. C'est peut-être une mauvaise interprétation et bon, je crois qu'un Deleuzien ne serait pas d'accord. En deuxième lieu, évidemment, le problème chez Deleuze est qu'il ne pensait pas aux nouvelles technologies, évidemment. Et donc, peut-on appliquer cette idée au concept, aux nouvelles technologies, au virtuel, comme il est maintenant, après la naissance et le développement des nouvelles technologies. Voilà. Il y a un quatrième auteur qui serait nécessaire citer, mais que je ne cite pas, c'est Pierre Lévy, qui a essayé un peu d'appliquer le concept deleuzien au virtuel, dans le sens social. je ne le cite pas, mais j'avoue que je l'ai à l'esprit tout le temps, qui est un auteur avec lequel je me suis confronté pour essayer de donner une resémantisation au concept. Et donc, je passe à mon point 3 et j'essaye de voir, après cet historique, qu'est-ce qu'il en est de, du virtuel. Qu'est-ce que c'est? Bon, première question, qu'est-ce que c'est que le virtuel? Bon, je garde la définition d'Aristote. Le virtuel, je crois, c'est ce qui a un principe de mouvement. Ça, c'est le point de départ. C'est ce qui a un principe de mouvement. Qui a la force, j'ajouterai, en interprétant Aristote, qui a la force, la puissance, dynamis, de produire quelque chose de nouveau. Et j'ajouterai ces termes très importants, nouveau. Donc, une maison, une science. Mais c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a le mouvement, sûrement, c'est quelque chose qui bouge, et qui fait bouger, qui pousse à la production de quelque chose d'autre. Bon, avec Lévinas, on pourrait écrire autre avec la majuscule, peut-être. Bon, où ça se trouve, les virtuels? Deuxième question. J'ai parlé toujours de deux pôles. Il y a deux pôles chez Thomas, il y a deux pôles chez Aristote. Donc, le virtuel est la capacité de l'architecte, ou bien il est la capacité de la maison. Il est la capacité des principes de produire la science ou de la science d'être produite. Je crois que pour saisir la signification la plus profonde du terme, il faut éviter de placer le virtuel dans un pôle et dans l'autre. Donc il n'est ni dedans, j'ai écrit sur mon schéma, ni dehors, pour dire les deux pôles, hein, dedans, dehors, dehors, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres oppositions. Bon, on pourrait parler de réfléchi et réfléchi, on pourrait parler de cause et fait, dans le cas de l'architecte, par exemple, qui est en cause agente. Bon. Y a deux pôles. Et le virtuel est un interstice, se trouve dans un interstice entre ces deux pôles. Il n'est pas... Pourquoi? Parce que s'il était simplement... Et il y a derrière, il y a le terme possible qu'il faut éviter. Il faut éviter de faire correspondre le virtuel au possible. Hein. Bon, le possible est toujours ou dans un pôle ou dans l'autre. Le virtuel, non. Sinon, on pourrait utiliser possible et ça serait fini. Non, le virtuel ne se trouve pas dans le premier pôle, il ne se trouve pas dans l'architecte. Pourquoi? Parce que ça serait comme dire qu'il y a un éventail d'alternatives possibles, dans l'architecte. Donc l'architecte peut construire 15 maisons, 15, 20, N maisons, ça, c'est pas important. Mais il peut construire, il y a un éventail de choses qui sont dans l'architecte. Et après, il choisit, l'architecte, une des maisons qu'il peut construire, et il la construit. La différence entre la maison dans la tête de l'architecte et la maison, ce serait seulement que, bon, je ne sais pas pourquoi, l'architecte a choisi que c'était elle qu'il voulait construire. Donc, il n'y aurait rien de nouveau, déjà, parce que c'est seulement quelque chose qui est dans la tête de l'architecte et qui, après, vient à être dans la réalité. Voilà. C'est un peu le rapport, ce que Deleuze appelle le rapport entre possible et réel. Hein. C'est ça. Deleuze dit, non, ça, c'est le rapport entre possible et réel. Bon, il y a le possible, après, il devient réel. La seule différence, c'est qu'avant, il n'existe pas. Après, il existe. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, ce n'est pas dans le premier pôle. Est-ce que c'est dans le deuxième? Voilà. Là, c'est encore plus facile de dire que non. Parce que ça voudrait dire, bon, c'est, si le virtuel est la capacité d'une maison d'être construite, alors ça veut dire que la virtualité est virtualité seulement d'une chose. Que l'actuel bon, mange, dévore le virtuel, et que le virtuel est seulement quelque chose qui dépend absolument de l'actuel. Donc la maison, c'est la maison, c'est elle qui devait être construite. Voilà. Donc, c'est pas ça. Il se trouve au milieu. Il se trouve au milieu, et je crois que c'est pour ça qu'il crée une tension entre les deux pôles, et c'est par cette tension que c'est possible que quelque chose de nouveau arrive. Voilà. Quelle est, troisième question, la caractéristique de cette catégorie, de cette notion de frontière? Bon, moi, je l'appelle Multiplication de la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que le virtuel a toujours affaire avec avec la multiplicité. Bon, on a plusieurs maisons, même si là c'était, on a plusieurs maisons et après il y a une qui passe à l'acte. On a une multiplicité d'images virtuelles. Après, on a l'actuel qui est unité. Donc, le virtuel est caractérisé, je crois, par le fait qu'il multiplie ce que, dans l'actuel, a une fonction unique. Donc, quand dans l'acte, quelque chose qui est dans la chose actuelle a une seule fonction, le virtuel multiplie cette fonction. Je vais faire un exemple, sinon on ne va pas comprendre ce que je veux dire. L'exemple le plus simple, je crois, pour comprendre cela, et là aussi je m'excuse parce que mon exemple n'est pas suffisant, mais c'est le rapport entre texte et hypertexte. Et qu'est-ce que c'est? Bon, dans un texte, il y a évidemment, dans un texte, je dis un livre, hein, par exemple, un texte actuel, un texte qu'on lit sur du papier, voilà. Il y a une fonction structurante qui est la numérotation des pages. Donc, il y a page 1, page 2, page 3. Okay? Et on doit lire, on est obligé, bon, on n'est pas obligé, on peut passer à page 15, mais de toute façon, on a une fonction structurante qui est très forte, on sait très bien qu'on doit lire page 1 et après on tourne, il y a page 2. Dans l'hypertexte, cette fonction structurante est multipliée, au sens que il n'y a pas de page 1, il y a des pages X, il n'y a que des pages X, et c'est le lecteur, au moment qu'il construit le texte en le lisant, je passe de cette page, je clique ici avec ce lien, et je vais, qui crée et qui il attribue des numéros à une page et après à une autre. Évidemment, ce n'est pas pour le fait que quand le lecteur a lu, le texte, que le texte acquiert une structure figée, parce qu'il y aura un autre lecteur qui peut lire de façon différente et faire de sorte que le texte soit structuré d'une autre façon. Donc la structure est multipliée. C'est un exemple tout bête, mais c'est pour comprendre ce que j'entends par multiplication de la fonction. Bon. Quatrième point, rapport entre virtuel et actuel. Bon, les rapports est celui-là. Les rapports est que l'actuel est quelque chose d'absolument nouveau par rapport au virtuel. Donc, ce n'est pas la maison choisie entre les maisons qu'il y avait dans la tête de l'architecte. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas. Donc, dans l'hypertexte, l'exemple fonctionne là aussi. Il n'y avait pas la structure, par exemple, moi je lis un hypertexte, je fais page 1, 2, 3, 4, ça n'existait pas cette structure, c'est moi qui l'ai créé, c'est nouvelle, ça existe seulement au moment où je structure les textes d'une certaine façon. Et voilà, et moi je serai pour dire que la maison aussi n'existe pas dans la tête de l'architecte. Elle existe au moment, seulement au moment où l'architecte applique sa capacité de construire et une maison nouvelle qui n'existait pas nulle part, qui n'était pas une possibilité dans la tête de l'architecte, qui n'était nulle part, vient à être. Donc, l'actuel n'est pas quelque chose, une unité choisie entre la multiplicité du virtuel. Non. Et en plus, deuxième chose, le virtuel. Qu'est-ce qu'il en est du virtuel au moment du passage à l'acte? Évidemment, le virtuel ne s'épuise pas dans un acte simple, dans un seul acte. C'est-à-dire, et là c'est évident, Aristote aussi le dit, hein, ça c'est Aristote qui le dit. Ça serait comme dire qu'un architecte, une fois qu'il a construit une maison, il ne sait plus faire des maisons. Bon, c'est impossible. La virtualité reste. Voilà. Là, je vais passer à une partie un peu plus applicative, parce que j'ai dit que je voulais donner une, c'est pas une définition, j'essaierai de la laisser ouverte, c'est un parcours, ok, mais quand même je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe si on applique cette idée que j'ai donnée à des questions pratiques aussi. C'est des exemples, et je m'excuse encore pour la particularité des exemples, pour le fait qu'ils sont... Bon, je me suis fait un petit dessin là. Pour un peu rigolo, qu'est-ce qui se passe au moment, par exemple, d'une opération virtuelle? Voilà. Alors, on a un patient qui est sur un vrai lit, à Paris. Bon, à l'Hôtel Dieu, il y a ce patient. OK. Il est branché de quelque façon à un ordinateur. OK, il y a quelque chose qui le relie à des machines. Et après, il y a un chirurgien, mais peut-être plusieurs, oui, c'est peut-être mieux d'imaginer plusieurs médecins. Mon dessin ne marche pas là, il n'y en avait qu'un. Donc, plusieurs médecins qui sont aux quatre coins du monde. Donc, il y a un médecin à New York, un médecin à Rome, un médecin à Moscou, qui perçoit le patient. Bon, je fais l'exemple de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle présuppose une expérience de type immersif. On dit immersif en français? Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas du chirurgien qui est seulement devant un écran d'ordinateur, mais pour faire la chose un peu plus amusante, je vais imaginer un chirurgien avec un casque, avec des gants, avec je sais pas quoi, de choses qui lui donnent l'impression d'avoir les patients devant soi. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle réalité virtuelle en sens strict. C'est la digitalisation des expériences. Mais l'expérience reste est semblable à celle actuelle. Hein? Donc, c'est pour ça que j'imagine... Bon, il y a ces quatre chirurgiens aux quatre coins du monde, quatre ou cinq, qui perçoivent les patients. Donc, il y aura cinq ou six perceptions du patient. Et au milieu, voilà... la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la virtualisation de ce patient. Donc évidemment, le virtuel est le principe de mouvement, ce principe de mouvement qui relie le patient sur le lit à Paris avec les plusieurs patients perçus des médecins aux quatre coins du monde. Principe de mouvement qui produit quelque chose de nouveau. Ça va très bien pour expliquer cela, parce qu'il y a un patient sur un lit, il y a un principe de mouvement qui produit quelque chose de nouveau, c'est-à-dire 4 ou 5 patients perçus des 4 ou 5 chirurgiens. Voilà. Donc, évidemment, où est le patient virtuel? Où se trouve-t-il le virtuel? Évidemment, il ne se trouve pas dans le pauvre patient sur le lit à Paris, et il ne se trouve pas non plus dans... la perception du chirurgien, parce que là aussi c'est actuel. Donc le virtuel est ce qui relie ces deux pôles. On a deux pôles aussi, hein? Même si les chirurgiens sont 4 ou 5, on a toujours deux pôles. Et voilà, multiplication de la fonction, évidemment c'est l'espace qui est multiplié. Un patient est un et à Paris, et il devient plusieurs partout. Évidemment, là, on m'a dit, oui, mais ça, c'est la multiplication du même, et ça ne crée pas de choses nouvelles. Oui, c'est un peu, l'exemple n'est pas parfait, mais on peut imaginer que les patients perçus sont complètement différents, bon, du patient réel. C'est une différenciation quand même. Différenciation, pourquoi? Par exemple, on pourrait penser que, et ça c'est une caractéristique du virtuel aussi, la multimédialité, c'est-à-dire que ce qui, chez les patients actuels, est perçu par la vue, donc appartient au sens de la vue, devient dans la perception du chirurgien, par exemple, une sensation olfactive ou tactile. Par exemple, on peut penser que si un organe du patient est dur, le chirurgien fait des impostations sur son ordinateur de façon qu'il perçoit ce qui est dur dans les organes du patient comme jaune, par exemple. Donc c'est ça. Et ça aussi, c'est une multiplication de la fonction. Bon, évidemment, le virtuel reste tel après le passage à l'acte, après qu'un chirurgien a perçu de quelque façon le patient, reste la force du virtuel, parce que, évidemment, il peut y avoir plusieurs chirurgiens qui font le même, donc la virtualité reste. Et bon, là c'est un peu comme j'essaierai d'interpréter ce phénomène. Voilà, mais passons à autre chose. J'ai promis au début que j'aurais utilisé le concept, le concept pour interpréter de façon nouvelle les rapports entre corps et pensée. parce que c'était ça en fait mon problème, et j'avoue que c'était ça qui m'intéressait plutôt que les patients sur le lit d'Hôtel Dieu. Qu'est-ce qu'il en est de ces rapports? Bon, il y a le problème, on a dit que cette collocation, cette situation, ce placement qui devait être utile pour rendre la pensée concrète, pour enlever la pensée de son abstraction, était mise en crise par le virtuel, par la déterritorialisation opérée par le virtuel. Donc, mais j'ai dit peut-être, on peut interpréter la chose de façon différente. Si on imagine un schéma un peu différent, donc dans lequel le corps ne soit pas un des deux pôles, mais dans lequel le corps soit au milieu. Donc dans lequel le corps lui-même soit le virtuel. Donc il faudrait interpréter pour ce faire le corps comme non pas comme le corps au sens banal, il faudrait resémantiser le corps aussi, donc non pas le corps comme le corps organique, mais comme une fonction de virtualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction en fait au sens mathématique. Au sens mathématique, qu'est-ce qui fait une fonction? Une fonction met en relation les éléments d'un domaine avec les éléments d'un codomaine. Je crois qu'on dit comme ça en français, domaine et codomaine. Je ne sais pas si. De toute façon, bon, c'est ça. Donc il y a des arguments dans un domaine, des arguments dans un autre domaine, le codomaine, qui sont reliés par une fonction. Bon, c'est la même, on a deux pôles, c'est la même chose qui fait le virtuel. Donc on pourrait penser le corps comme fonction virtualisante. Et qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce qu'il y a aux deux pôles? D'une part, bon, il faudrait avoir la pensée, évidemment. Mais la pensée aussi, qu'est-ce que c'est que la pensée? Et là, je vais essayer de dire quelque chose que bon, je ne savais pas si dire ou non, parce que je ne sais pas si c'est compréhensible comme ça dans deux minutes. Peut-être il faudrait expliquer un peu plus, mais je vais essayer. Si ça ne marche pas, on imagine que c'est la pensée, hein. Mais si ça marche, c'est mieux. Bon, pensée, ça ne me va pas, parce que je voudrais imaginer une pensée de personne. Donc, je ne voudrais pas avoir dans un pôle la pensée d'un sujet. Je voudrais avoir dans un pôle une pensée abstraite du sujet. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je crois que la pensée, dans ce sens-là, que j'appellerais plutôt réflexion, est le repliement de l'être sur soi-même. Donc, bon, la pensée a toujours ce mouvement de retour, hein, d'aller-retour. Je crois que c'est dans l'être même qu'on peut le trouver. Merleau-Ponty parlait de roséité de la rose, ou de la table qui tablifie. Je crois, bon, c'est un mot inventé, de toute façon, la table qui s'est fait table. L'être est réfléchi, et cet être réfléchi, on a dans un pôle cet être réfléchi, qui n'est propriété de personne. On n'a pas un sujet qui le pense. C'est là, c'est un être réfléchi, c'est l'être réfléchi, d'une part. On pourrait dire ça en parlant de pensée pure, hein. C'est pas la même chose, mais bon, si je n'ai pas été assez clair, on parle de pensée pure et ça va, ça donne des problèmes, mais bon. Et au milieu, le corps, mais bon, le corps comme virtualité pure. Et à l'autre côté, ce que j'appelle, et là aussi, collocazione. Collocazione, situation, placement, espace, dans un certain sens, espace matériel. Donc, la déterritorialisation n'est plus un problème comme ça. Parce que ce qu'il y a dans le premier pôle, donc on a collocation, corps, imaginé comme ça, et pensée pure, être réfléchi. Okay? Bon, la situation, le placement n'est pas le fait d'avoir des coordonnées cartésiennes. Donc, on a trois coordonnées, on définit exactement un point de l'espace. C'est pas ça. La situation, le placement acquiert un sens seulement au moment où le corps opère une liaison entre cet être réfléchi et cet espace. Et dans cette liaison, l'espace, la situation, le placement acquiert un sens et la pensée aussi. Donc c'est on a affaire avec une actualisation. Les corps, bon, pour faire un exemple un peu, bon, le corps, on a dit pendant beaucoup, toute la philosophie du XXe siècle, le corps ouvre l'espace, habite l'espace et en l'habitant l'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'interpréterai comme ça. Donc, on a une liaison qui s'est faite entre cet être réfléchi qui est du côté du patient sur le lit. Hein. Donc, c'est quelque chose de donné. Il y a une davité de cet être réfléchi qui acquiert fonctions multiples en liaison parce qu'il acquiert des sens différentes à chaque fois qu'une liaison avec la situation, le placement est opéré. Le corps fait de sorte que soit la pensée n'est plus abstraite, cet être réfléchi n'est plus abstraite ou donnée comme ça, mais elle acquiert des sens toujours et des significations toujours différentes par rapport au placement auquel elle est liée par la fonction virtualisante du corps. Voilà, je ne sais pas si je suis arrivé à expliquer quelque chose. C'est ça, bon, c'est ça évidemment le problème qui m'intéressait et c'est pour ça que c'est le plus difficile à expliquer. Donc, évidemment, ce corps est un interstice entre ces deux pôles. Évidemment, les fonctions de l'être réfléchi, de la pensée d'un côté et de l'espace ou du placement de l'autre côté sont multipliées dans leur fonction parce que, par exemple, ce qui est ici, ce ici est ici n'est plus là parce que il est ailleurs à chaque fois qu'une liaison est opérée. Donc évidemment, bon, on pourrait penser je suis placé ici, je vois ce que j'ai devant moi, mais non, parce que le corps en habitant l'espace relie une pensée à cet espace et lui donne une conformation complètement, une structure complètement différente. C'est ça. Donc, évidemment, les liaisons, bon, le virtuel ne s'épuise pas, la virtualité du corps ne s'épuise pas dans une seule actualisation. Là, il ne faut pas répéter la même chose, mais évidemment, c'est cette fonction, ça serait comme dire qu'une fonction s'épuise dans une seule liaison opérée entre deux pôles. Non, c'est quelque chose, c'est une tension qui reste après chaque actualisation. Évidemment, ce qui naît de cette liaison est quelque chose d'absolument nouveau. Le moment où le corps opère une liaison, bon, il y a cet être réfléchi, cette pensée qui est donnée, qui est là, et de l'autre côté, il y a un espace de placement, et quand la liaison est opérée, il y a quelque chose d'absolument nouveau, qui n'existe pas jusqu'au moment où cette liaison prend corps. Bon. Encore, c'était peut-être pas bon. Mais voilà, j'ai parlé de ré-sémantisation et j'ai donné une définition. Non, j'espère que non, en fait. Et pourquoi? Parce que déjà, mon parcours n'est pas achevé. Parce que on a essayé d'interpréter quelques exemples, quelques situations, mais il reste évidemment des questions ouvertes. Il reste évidemment la virtualité et non pas la possibilité de penser le virtuel de façon différente, de continuer la resémantisation. Il reste ouvert le fait que, même à côté de cette idée de virtuel que je donne là, en soi des autres. Bon, on peut avoir des autres idées à côté, c'est pas, et on n'aura pas une contradiction si c'est une ré-sémantisation. Si c'est une définition, oui. Donc là, c'est pour ça que, de façon, comme je fais toujours, je vais terminer par citer des questions ouvertes, donc ce que je crois que je n'ai pas compris. Et donc, ce qui donne la possibilité de continuer le travail et de continuer la ré-sémantisation. Donc, première question, mon point 5A. Première question, quel est le rapport du virtuel à l'existence, à la catégorie d'existence? Bon, on pourrait penser, par exemple, Pierre Lévy le fait, que le virtuel est une notion modale, comme possible, comme nécessaire, voilà. Et donc, qui est seulement, qu'est-ce que ça veut dire, qui donne une signification différente à ce qu'existe. Bon, une chose peut exister de plusieurs façons, de plusieurs modalités d'existence, nécessité, possibilité, etc. Et la virtualité est une de ces modalités, je crois pas. Mais, bon, il y a cette possibilité. Deleuze ne serait pas d'accord. Bon, et le virtuel, est-ce qu'il existe? On peut parler d'une existence du virtuel, donc ce qu'il y a au milieu, cette notion de milieu, les patients virtuels, le corps comme fonction virtualisante, peut-on dire qu'il existe? Bon, parce que c'est un problème, parce que si on dit que ça existe, bon, on le lie à cette idée forte d'existence. Bon, Deleuze ne serait pas d'accord parce que le virtuel est ce qui va au-delà de l'existence. Pourquoi? Parce que on a des problèmes avec la différence. Hein, l'existence est ce qui est là, et donc comment le virtuel qui existe peut donner origine à des choses absolument nouvelles. Donc. Mais d'autre côté, si on dit que ça n'existe pas, alors qu'est-ce qu'il en est de ça, bon, du fait qu'il est concret, qu'il est là, qu'il opère cette tension? Comment il fait s'il n'existe pas? Et là, il y a tous les problèmes de rapport, et je passe au deuxième point, du rapport entre virtuel et réalité, possibilité, réalité et virtualité. Bon, moi, une petite idée, je l'ai, et c'est un peu folle peut-être, c'est qu'on doit en fait abandonner absolument des catégories qui sont très utilisées, qui sont la possibilité et la réalité. Je crois qu'il ne faut pas parler de possibilité et de réalité. Ça veut dire que si le virtuel, bon, si je peux opérer cette resémantisation du terme virtuel, je ne crois pas qu'on puisse opérer une resémantisation du terme possible. Parce que c'est, il y a des termes qu'on ne peut pas resémantiser, parce qu'ils ont une signification tellement figée, tellement forte, qu'on ne peut pas changer simplement en faisant un discours, en disant « bon, c'est pas comme ça », on trouve un autre sens. Et possibilité et réalité, selon moi, c'est là le problème. Le problème du rapport entre virtuel, existence et tout ça, entre concret et abstrait, c'est dans le fait, entre différence et nouveauté, c'est dans le fait qu'il y a une possibilité, une idée de possible qui est terrible, qui bloque tout dans... L'effet, bon, la possibilité est toujours ou dans un pôle ou dans un autre. La possibilité, c'est ça. C'est toujours ou bien un éventail d'alternatives qui sont dans un propriétaire. Bon, moi, j'ai cette possibilité. Ou bien c'est c'est comme la mauvaise infinité ou le mauvais infini, je ne sais pas comment on dit chez Hegel. Parce que c'est possibilité au sens abstrait, parce qu'on peut toujours ajouter d'alternatives, c'est ce que critiquait Hegel. Donc je ne crois pas qu'on puisse revenir à cette idée. Ou bien possible, c'est ce que Aristote appelle ce qui n'est pas nécessairement faux. Ça veut dire qu'est-ce qui n'est nécessairement faux, ce qui est possible, et qu'est-ce qui est possible, ce qui n'est pas nécessairement faux. Qui lui donne beaucoup de problèmes aussi quand il parle de Dunaton, hein, parce qu'évidemment, possible, et ces problèmes naissent du fait que c'est du même terme grec qu'on parle. C'est Dunaton chez Aristote. Voilà. Bon, moi, je crois qu'on pourrait peut-être abandonner absolument cette catégorie de possibilités et aussi de réalité qui est un peu la contrepartie de la possibilité. Je ne sais pas comment, hein, c'est un peu une idée un peu trop forte, je comprends, mais je crois qu'il faudrait. Troisième point, le rapport entre virtuel et pouvoir, ou virtuel et virtus, je vais le dire ensemble. Virtuel a une signification politique et une signification éthique. Ce n'est pas un cas si dunaton veut dire aussi, dynamis veut dire aussi puissance au sens de pouvoir. Et ce n'est pas le cas si virtuel, virtualis, dérive de virtus, vertu. Donc il y a un sens, et je crois que c'est là que c'est très intéressant. Il y a deux pôles, il y a quelque chose qui peut être pouvoir au milieu. Donc je crois qu'il faudrait resémantiser encore le terme pour voir quel est son rapport avec le pouvoir. Bon, après, le rapport avec Deleuze. Évidemment, j'ai interprété, je le dis, Deleuze de façon antidéleuzienne. Un Deleuzien, je crois, ne serait jamais d'accord avec moi à dire, par exemple, que les virtuels structurent l'actuel, ni à dire que le virtuel est une propriété de l'actuel. Et voilà. Et donc, je laisse ça ouvert. Ce que je dis, c'est que on doit continuer la resémantisation et on doit continuer à se poser la question continuellement du rapport à Deleuze. Et mon dernier point, virtuel et théorie. Bon, on est dans un groupe de recherche théorique qui se pose la question de ce qu'est la théorie. Donc, je et en plus, c'est une question qui m'a intéressé, c'est une question qui, je crois, est liée au concept de virtuel. Pourquoi ? Déjà, l'idée de faire théorie en resémantisant, c'est ce que je fais. Là, c'est le concept de resémantisation que j'ai joué pour faire théorie. Et qu'est-ce que c'est ? Et j'ai commencé par dire, quand je dis qu'est-ce que c'est que la resémantisation, je dis, c'est on part de quelque chose qui existe, qui est là, un terme par exemple, la signification d'un terme, et pour arriver à quelque chose de nouveau. Voilà, deux pôles. Un avant et un après. Un dedans, un dehors. Théorie. Quand on parle des théories, on a toujours affaire, selon moi, avec deux pôles. Et c'est le premier pôle, c'est ce qu'il y a avant. Parce que, comme on disait la dernière fois, on ne crée pas ex nihilo. Ça, c'est adieu. Donc, nous, non. Donc, il y a quelque chose de laquelle on part. Il n'y a pas d'originalité pure, comme ça, la création. Non, on part de quelque chose, évidemment. On part, même si on part d'un problème, il y a un problème. Bon, il y a toujours plus de choses, il n'y a pas seulement un problème d'habitude, hein. On a des auteurs qui ont écrit, il y a encore de la théorie, il y a aussi des situations, c'est-à-dire que quand on fait théorie, on ne la fait pas dans l'espace, on la fait quelque part. Donc on a quelque chose de laquelle on part, premier pôle, et de l'autre côté, on a quelque chose d'absolument nouveau, ce que la dernière fois on appelait la position. Bon, ce qui est nouveau. Je crois que la théorie, et c'est par là que je fais théorie en resémantisant, et la théorie est cette tension qui met en liaison, de quelque façon, le premier pôle, l'avant, avec l'après. Et donc la théorie aussi, je crois qu'on pourrait la penser comme une notion interstitielle. Et donc peut-être là, et là je laisse ouvert parce que je ne sais pas en fait, peut-être la théorie a une liaison très stricte avec les concepts de virtualité. Je crois que c'est comme ça, mais bon, je laisse absolument ouvert le problème, parce que ça... Et bon, évidemment, en faisant un peu de croisement entre les questions ouvertes, quel est le rapport entre théorie et pouvoir alors? Bon, je m'arrête là, je vous remercie.
Merci beaucoup, Marcello. Aussi difficile que soit l'exercice qui consiste à essayer d'amorcer les questions juste après que tu as fini de parler, nous allons nous y livrer tout de même. Un des intérêts, une des ambitions de ce groupe, de ce programme, c'est justement de ne pas laisser les questions seulement dans la circonscription d'une séance. Comme vous l'avez entendu, si vous n'y avez vous-même participé, ce que Marcello dit aujourd'hui est en résonance très directe, enfin même en dialogue très direct avec des choses qui ont été dites non seulement lors de la précédente conférence mais aussi dans nos séances de discussion auxquelles évidemment vous êtes les bienvenus si vous avez la possibilité d'y participer. Alors, Jean-Baptiste Brenet.
Merci. J'ai plusieurs questions des Romains.
Je crois que bon, le web, c'est un exemple que, évidemment, selon moi, marche très bien. Si on pense, oui, les plusieurs connexions possibles, les plusieurs connexions, bon, il y a évidemment un réseau, il y a plusieurs connexions, et je pense surtout, je me suis posé la question de quelle est la situation de quelqu'un devant une page d'Internet, non? Donc, on a une page et évidemment, il y a des liens devant nous. Et donc, derrière cette page qui est en actualité, il y a une virtualité. Et là, oui, c'est la multiplication est le fait que un lien n'existe pas, n'est pas là jusqu'à que je ne l'ai cliqué. Donc c'est ça que je crois. Donc le rapport entre la multiplicité, parce qu'on ne peut pas dire la multiplicité du web n'est pas systématisable, même si évidemment c'est un nombre fini de pages qu'on a à disposition, parce qu'il y a des ordinateurs sur lesquels il y a des données. C'est peut-être beaucoup, mais c'est pas infini, c'est fini. Mais ce qui est virtuel, c'est le rapport entre une page et les N pages, les N autres pages. Oui, c'est ça, oui. Parce que c'est la même chose. Bon, on peut penser le web comme un grand hypertexte, hein, c'est exactement ça, c'est seulement plus grand. Il y a plus beaucoup de pages. Mais c'est un hypertexte. Parce que les pages, bon, je peux en ajouter, oui. Mais ils sont là. À chaque moment, il y a un numéro fini de pages. Et donc, oui, c'est la structuration de la navigation sur le web, oui, que je pense comme virtuelle. Et la situation très intéressante est que, oui, quand je suis devant une page, je suis immobile. Et c'est un exemple que j'ai utilisé surtout pour me poser la question de qu'est-ce qu'est l'action d'un corps. Et donc, comme métaphore de la situation du corps, comme fonction virtualisante, oui, quand je suis devant une page et que je peux cliquer ci ou là, et que je peux aussi écrire une adresse complètement différente. Donc, oui, je crois que c'est un bon exemple, et c'est un exemple qui à moi, il m'a beaucoup aidé pour comprendre des choses. Évidemment, je répète, toujours quand on a affaire avec ce virtuel au sens plus banales comme Internet, comme ce sens social, il y a toujours des problèmes dans les exemples, parce qu'on pourrait objecter, les pages évidemment existent, parce qu'il y a un ordinateur sur lequel il y a les données, donc, mais je crois que c'est un bon exemple.
Encore Jean-Baptiste.
Voilà pourquoi la fonction est interstitielle. C'est dans le cas de la théorie, on le comprend très bien. Parce que il y a quelque chose qui est là. Moi, je dirais en ce cas-là, ce que j'appelais l'être réfléchi, la pensée pure, qui est là. Et qui, de quelque façon... les deux pôles, là, on a affaire évidemment avec une opposition qui est... qui était toujours là pendant que je parlais, mais je ne l'ai pas exprimé, qui est l'opposition entre détermination et indétermination. Donc, et c'est par là qu'on doit se poser la question du déclenchement. C'est-à-dire que, et c'est par là que je crois que l'essence d'interstitialité doit être compris. Si... le virtuel était dans le pôle de la détermination, donc ce qu'il y a, il y a déjà, donc il y a quelque chose qu'il y a, qui détermine les choses, qui, on peut penser, nous on est déterminés de certaines façons, parce qu'on a, on est ici, on a des choses autour de nous, ok. Et donc, on pourrait penser que tout est déterminé, donc que le déclenchement est simplement le fait qu'une détermination porte de façon laplacienne à faire un parcours déterminé. Et d'autre côté, on pourrait penser l'indétermination absolue dans laquelle, comme un peu chez Schelling, dans laquelle une liberté absolue vient et crée quelque chose de nouveau. Bon, l'idée de l'interstitialité, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui déclenche? Ce qui déclenche est, il faut poser déjà que le corps soit quelque chose de bougeant. Et ça, c'est une position vraiment. Que le corps a quelque chose à voir avec le mouvement. Bon, qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui déclenche, on pourrait dire, mais déclencher, là, ça va poser des problèmes, en fait, parce que, j'ai dit, c'est mouvement, le corps, c'est mouvement. Ouais, ça, on me dit, non, c'est pas, alors je ne sais pas répondre. Mais si on imagine que le corps est mouvement, alors comment ce mouvement se mouve donc, parce qu'il y a, il est au milieu entre quelque chose d'absolument déterminé qui est là, l'être réfléchi, et quelque chose qui, d'autre côté, n'est pas là, qui doit être, qui est ouverte. Et donc, c'est en étant au milieu de ces deux pôles que la tension se déclenche. Oui, oui. Oui, évidemment, on a pu plus, ça, on pourrait le penser comme ça, parce que bon, le virtuel a été mis beaucoup de fois en liaison avec l'imaginaire, l'imagination, mais je ne crois pas. Parce que je crois que qu'il y a quelque chose dans ce que tu dis, je crois qu'il y a quelque chose avant, c'est le fait que la pensée soit pensée de quelqu'un. Et c'est ça qui... Et par contre, si la pensée est définie comme... Et c'est pour ça que je ne peux pas utiliser le terme « pensée ». Si ce qu'il y a dans ce pôle-là est un repliement de l'être sur soi-même, alors d'où vient l'imagination? Je dis, peut-être, moi je préfère penser le corps plus comme quelque chose qui écrit plutôt que comme quelque chose qui imagine. C'est le fait de Merleau-Ponty parler d'une blessure... voilà, et peut-être ce liaison est écrire ce qui l'être écrire le fait que l'être se replie, et écrire le fait que l'être se replie sur soi-même signifie le mettre en liaison avec un placement, et les rapports, c'est ça, parce qu'on est dans l'être qui se replie est partout, est un espace, bon, je l'appelle l'espace topologique, c'est un espace qui n'est pas conformé comme l'espace cartésien, évidemment, l'espace où l'être revient sur soi, et je ne peux pas imaginer quelque chose qui soit au dehors de cet espace. Et donc, même l'autre pôle de l'opposition, en fait, si on le pense bien, n'est pas dehors de l'être qui revient sur soi. Évidemment, le placement est lui aussi ça. Donc, je parlerai pas. Je vois le corps. Je sais pas. Bon, c'est difficile de te répondre parce que je suis fatigué peut-être. Mais et parce que je pense que c'est difficile ta question. Mais je crois que c'est le fait que le corps est au milieu. Et il faut pas utiliser cette catégorie d'imagination. Je crois. Hein, je suis pas sûr de ce que je dis. Mais je crois que c'est. Parce que si tu dis que le corps imagine, tu dis qu'il y a un sujet qui pense. Et c'est ça que je veux absolument éviter, bon, pour plusieurs raisons, dont la première est que sinon on revient au rapport corps-pensée fait comme ça, et que le pensée devient pensée d'un corps. Et donc, qui n'est pas... Qui, comment penser comme ça la nouveauté, c'est ça.
Ah, attends, il y a plusieurs choses... Il y a Saul, Anton, peut dire quelque chose, peut-être d'autres gens, mais ça se presse là, on a beaucoup sur le...
C'est un peu comme l'autre, donc je m'excuse d'avance.
Saul est américain, il vient de Princeton.
Mais pour poursuivre un peu l'idée qui a été soulevée, pour revenir à l'exemple de l'architecte, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez important là, parce qu'il y a... Il y a au moins deux sens d'un architecte. C'est celui qui dessine, qui fait des schémas. Donc là, il est transféré avec ça. Parce que quand aussi il dit que l'imagination, je ne sais pas très bien d'où ça vient, il ne définit jamais. Et il ne l'explique jamais. Mais aussi, il y a l'architecte qui, en fait, qui construit le bâtiment. Et là, c'est une différence assez critique à. Pour ce que vous voulez développer dans un sens. Et cela me fait penser que l'idée de la nouveauté n'est pas assez claire dans ce que vous avez dit. À mon avis, dans un sens, vous ne voulez pas dire quelque chose de nouveau, parce que vous voulez dire que c'est une production, donc c'est une chose. Construit. Mais dans un autre sens, vous dites que ce n'est pas quelque chose, c'est une écriture. Et là, il y a une équivoque, à mon avis, il me semble.
Ouais. Oui, sûrement, je suis tout à fait d'accord. Hein. Et oui, évidemment, j'ai utilisé beaucoup de termes dans un sens pas précis. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Ok. Donc non. J'essaie de répondre quelque chose. C'est pas du tout facile parce que il y a une hétérogénéité de langage aussi. Donc et il y a le problème que moi je parlais avec parfois en simplifiant mes concepts, mes catégories, mes termes pour faire comprendre dans une heure ce que je voulais dire. Donc oui, évidemment, c'est vrai. Ce que je répondrai à... voilà, c'est la même chose. Hein. L'architecte imagine, il y a l'architecte qui fait des dessins. Oui, mais il n'y a pas l'architecte qui imagine quelque chose. Selon moi. Bon, c'est pas l'architecte qui imagine. J'essaierai de ne pas penser ça. Donc, ce que j'essaie de faire, et là, l'exemple ne marche plus, évidemment, c'est de voir... les liaisons, la liaison entre architecte et maison, non pas comme quelque chose qui est dans l'architecte. Et donc, ce n'est pas, je parlerai jamais d'un architecte qui imagine la maison. Je parlerai plutôt d'un architecte qui l'a construit, qui l'écrit, oui. Et je pense que l'architecte ne pense pas. Donc c'est ça ce que je veux faire. Je comprends que ce n'est pas très compréhensible ce que je dis, hein. Mais mon essai c'est de voir si on arrive à considérer le corps, bon là l'architecte peut-être, comme quelque chose qui ne possède pas de pensée. Et la pensée donc, et l'imagination avec, je crois, comme quelque chose qui reste absolument au dehors. Et donc l'architecte, en ce sens-là, opère en tant que corps et virtualité pure. C'est ça ce que j'essaie de dire. Évidemment, on est sorti de l'exemple, hein, parce que l'exemple c'était autre chose, c'était pour clarifier les choses, et là on les complique, et donc on pense qu'est-ce que c'est qu'un architecte. Un architecte, on peut dire déjà, on peut dire qu'un architecte est un corps, oui peut-être, et donc est un corps ou a un corps. Bon, on peut dire que l'architecte est un corps, on peut dire que l'architecte est donc une fonction virtualisante qui met en liaison un être qui se replie sur soi et non pas une pensée et non pas une imagination, un être qui se replie sur soi avec quelque chose qui est un placement. Ce que j'appelle, bon, et là peut-être, c'est ce que j'appelle, je l'appellerai pas en fait placement, je l'appellerai plutôt attitude. C'est-à-dire, l'attitude, j'essaie de penser pour attitude en mélange de ce que chez Merleau-Ponty est la perception, par exemple, ce qui est le placement en tant que, comme je l'ai un peu défini, et écriture aussi. Donc, comme signe, comme blessure. Donc, le fait de mettre en liaison cet être qui se réduit sur soi-même, ou mieux, ces êtres, parce que j'essaye de bon, là, le discours serait plus large, de toute façon, cet être qui se replie sur soi avec une attitude qui est, qu'est-ce que c'est, qui est un placement, une perception, une écriture, une blessure du corps. Hein. Voilà, c'est, je comprends que c'est pas.
Je vais dire un truc. Je vais dire quelque chose. Bon, c'est vraiment très très bien ce à quoi tu nous fais penser. Et alors, toutes les questions qu'on peut soulever sont évidemment des questions qui n'ont pas forcément de réponse, ni de ta part, ni de notre part. Hein, ce sont encore moins des objections, hein, évidemment. Mais. Moi, je suis frappé par c'est la façon dont la discussion a tourné, parce que, en fait, je vais essayer de dire une chose. Si je simplifie, et donc si je fausse ton schéma, le grand schéma spéculatif, hein, le schéma, le grand dessin, le moment où tu as pris le risque d'aller, puisque c'est ce qu'on demande ici, tu as pris le risque d'aller à un point d'incertitude complet, etc. Si je prends l'affaire du grand schéma, entre d'un côté ce que tu appelles l'être réfléchi, et qui se réfléchit, tu dis pensée pure quand même,
Alors évidemment, je triche, je désémantise ce que tu resémantises, je le raplatis, je le ramène à... Mais bon, évidemment, tu gardes quand même quelque chose avec le mot pensée. De l'autre côté, tu mets, bon, la collocazione, la situation, le placement, mais quand même tu emploies assez souvent, pour parler de ça, le mot d'espace. Alors je brutalise, et je brutalise ce que tu affines, et donc je te tire en arrière, bien sûr, hein. C'est tout le contraire de ce que tu as tenté de faire. Et dès que je vois ça, je me dis, tiens, il y a de la pensée d'un côté, de l'espace de l'autre, et entre les deux, il y a du corps. Alors, je dis, mais ça, c'est le schématisme kantien.
Ouais,
c'est-à-dire, c'est... Mais bien sûr, je ne dis pas que ce que tu fais, c'est ça. Hein, c'est te tirer vers l'arrière, c'est t'empêcher. C'est nier le mouvement, au contraire. Hein, c'est te tirer vers le... C'est pas bien, mais bon, c'est pour discuter, quoi. Et donc, l'imagination. L'imagination transcendantale, bien sûr. Ou dans le schématisme kantien, ou dans la façon dont Heidegger le lit et le travail, c'est frappant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, ce qui opère la possibilité de cette relation, c'est le schématisme, l'imagination transcendantale, au moins dans la lecture d'Heidegger. Bon, alors, pourquoi je viens à ça ma question serait celle-ci. Serait de te dire ceci. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas comme ça, mais qu'il faut le prendre à l'envers. Il ne faut pas dire il y a la pensée, il y a l'espace et il y a du corps qui fait de la relation entre les deux, mais il faut partir du déjà là, du corps, comme tu dis, c'est mouvant, hein, c'est moi, et pour c'est moi. C'est-à-dire que ça bouge, quoi, ça se meut, hein, et pas partir du fait que ça soit en relation, mais se dire au fond, ça déclenche pas, c'est déjà là. C'est déjà déclenché, quoi. C'est avant qu'on se pose la question, c'est déjà déclenché. C'est une position, hein, c'est une position. Hein, bon. Mais alors, quand même, si c'est là, quand tu réponds à Jean-Baptiste, tu dis, ouais, c'est pas l'imagination, parce que l'imagination, il faut qu'il y ait un sujet, et donc c'est, tu dis l'imagination, tu entends l'imagination comme fonction de l'âme, quoi. Et toi, tu dis, non, c'est pas fonction de l'âme, c'est le corps. C'est-à-dire, c'est le... Mais alors, à ce moment-là, je dis, la question que je pense en t'écoutant, c'est, ce corps-là, qui établit ce lien entre cette pensée qui n'est la pensée de personne, cette mise en espace, cette collocation, cet être-là, qui c'est quand même... Est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas, question que je te pose, un corps, c'est-à-dire un corps singulier. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du corps dans cette affaire qui n'est pas un corps, sans même dire une âme ou un sujet, quelqu'un, mais un corps, le un du corps, la singularité du corps. Est-ce qu'il y a du corps qui n'est pas un corps? Est-ce que ça existe des corps qui ne sont pas un corps? Et c'est, tu sais pourquoi je pense à ça? Parce qu'il y a un seul point sur lequel je résiste dans ton affaire. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je freine. Tout le reste, je vais, et en particulier quand tu dis, ouais, on va lâcher le possible, ouais, d'accord, on va lâcher le possible, c'est super, je suis d'accord. Mais lâcher le réel, j'ai pas envie, c'est marrant. C'est-à-dire, lâcher le possible, oui, et quand tu dis, il faut lâcher le réel aussi, je dis... Ah, Marcel, attention, on va pas se libérer du réel comme ça. Ça, c'est marrant. Alors, tu dis, lâcher le couple possible réel, ça, je comprends très bien. Et je vois Deleuze, Paola Maratti a beaucoup éclairé cette affaire dans ses livres récents, et c'est vraiment très, très net, quoi. Oui, l'opposition possible réel, comme tu dis, comme position de blocage, tout à fait d'accord. Et le nouveau, à ce titre. Bien sûr, le nouveau. Parce que... c'est nouveau. En fait, moi, je suis d'accord avec toi pour dire la maison, c'est nouveau. C'est une nouvelle maison. C'est important. Mais, alors, la question que je me pose, c'est pourquoi je résisterais à cette ablation du réel? Est-ce que c'est pas parce que, justement, le réel, c'est justement la singularité? C'est le fait qu'il n'y a pas, tu vois, c'est pas le brouillard du truc, c'est qu'il n'y a pas du corps, mais un corps. C'est pas ça le réel au fond, je sais pas du tout.
Ouais,
je pas
mais ça du tout. J'étais en train de. Ouais. Oui, c'est ça le réel. Je crois que oui, mais c'est ça qui me pose des problèmes. Il me pose des problèmes de façon vraiment. On revient là aux questions du. Comment on dit Parménide. On le dit comme ça, de Platon. Et du rapport entre unité, singularité et multiplicité. Et c'est ça qui me pose des problèmes et qui fait que je résiste au terme réel. Et donc, oui, je résiste à l'unité. En fait, je crois qu'il faut penser l'unité de façon différente. Bon, il faut abandonner la réalité, ça signifie penser de façon différente l'unité et les rapports entre unité et multiplicité. La réalité, selon moi, et bon, peut-être pour te faire plaisir, on pourrait essayer de lâcher possible et de resémantiser réel. Mais je le trouve un peu difficile, mais bon, je ne sais pas, hein, là, je ne sais pas, parce que c'est vraiment où je ne suis pas allé plus avant que ça, mais je réfléchis ici. Et bon, l'unité, la singularité, ce que tu veux garder, bon, évidemment, c'est un problème. Et comment penser, mon problème était aussi comment penser la singularité du corps, évidemment. Donc, le corps, est-ce qu'il est une unité? Est-ce qu'il est... bon, évidemment, ça donne des problèmes, parce que déjà, quand on dit le corps est une unité, ça fait penser à l'idée des substances. Et ça ne me va pas. Et sinon, quand on dit le corps est une unité, ça me fait penser à l'idée d'identité. Et ça ne va pas, parce que si le corps a une identité, comment fait-il à faire ce lien, à être ouvert et tout ça? Donc, comment est-il possible de déstructurer l'identité, donc de faire de sorte que le corps n'est pas une identité, mais qu'il soit quand même une unité. Moi, j'ai essayé de penser ça en tant que... Bon, penser l'unité, je l'ai dit comme ça, et c'est quelque chose de qui pourrait apparaître banal si on a lu Deleuze, mais c'est une chose un peu différente de celle que fait Deleuze, que j'essaie de faire, de penser l'unité en tant que point limite de la différence. Donc, penser le fait qu'un corps soit une unité, le penser de façon différentielle. Donc, ne pas penser le corps est une unité parce qu'il est là. La réalité donne cette idée, mais plutôt de penser le corps, il est une unité parce que il ne peut pas être un autre corps. Ou mieux, il a c'est une tentation d'être un autre corps. Moi, je vois comme si le corps ne voulait qu'être qu'un seul corps. Et par contre, il y a quelque chose qui fait résistance. Et c'est cette résistance où il faut chercher l'unité. Et non pas dans... Parce que sinon, on arrive à penser, selon moi, le risque de penser les corps comme singularité et le risque de penser un seul corps. Voilà, c'est ça. Et donc, je crois que ça a beaucoup à faire avec la question de la mort. Donc, je crois qu'il faudrait trouver l'unité. Bon, c'est peut-être un peu banal de le dire comme ça, parce que bon, ça ressemble un peu à Heidegger. Et oui, l'unité, c'est la mort. Mais la mort en tant que moment limite où le moment où l'un et l'autre se rapprochent est le moment où qui rend possible, le seul moment qui rend possible que l'un et l'autre ne soient un et autre. Voilà. Et donc c'est pour ça que, par contre, j'ai beaucoup de problèmes. Évidemment, c'est un point chaud, ce que tu touches. C'est quelque chose de difficile à penser parce que, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas remettre l'unité comme ça de la porte de d'arrière, parce que sinon on arrive, bon, alors oui, il y a une unité, le corps est là, et selon moi il y a une conscience constituante. Donc on revient au sujet qui pense, et on revient à Hegel. Bon, c'est ma peur toujours quand il y a une unité, je dis bon, c'est fini, il y a un mécanisme après qui va ramener toute cette idée de multiplicité, toute l'idée de virtualité, l'idée de tension qui va être réduite à rien. Je comprends que c'est pas en disant la réalité, on n'en parle plus, qu'on résout le problème, hein, évidemment. Mais bon, j'explique seulement pourquoi j'ai du mal à penser les corps tout simplement en tant qu'un corps. Voilà. Je ne sais pas si j'étais un peu répondu.
Jean-Baptiste ? Formuler de manière c'est de dire que les anges sont là où ils agissent. Et donc que la procédure, elle est là où elle agit. Et ce qui fait qu'on peut expliquer ainsi qu'un ange puisse être dit là, ou ici, ou encore là. Et pour dire cette localisation, l'une des formules employées, c'est celle de contactus virtualis. Donc c'est évidemment une récente pensée pour illustrer ce que tu disais. La deuxième chose, c'est une remarque, question. Je pense effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur cette question de nouveau, de production, de création de nouveau, là, il y a quelque chose à affiner, parce que moi, je me demandais en même temps si il ne faudrait pas parler plutôt, mais ça fait éclairer sans doute, de l'appropriation, ou de procréation, je ne sais pas pourquoi, puisque s'il y a de la pensée pure, et que donc, si la virtualisation, c'est pas une appropriation. Et du coup, le terme nouveau est peut-être un peu trop vague par rapport à ça. Mais le troisième point qui me rend plus, c'est le sort du moi, et j'explique pourquoi je vais poser ces questions tout à l'heure de façon très claire et tu verras combien je suis loin du sujet que tu penses. Évidemment, en écoutant, pour moi qui lis avec Rolls et qui l'étudie, je me disais qu'il y avait là une sorte de modèle médiéval magnifique. Pour penser ce que tu disais, puisque si on résume très très vite et un peu mal, au fond, Everest, c'est celui qui bâtit un système dans lequel l'intellect est séparé des corps, et l'intellect est vraiment impersonnel. Cette idée que la pensée qui doit être humaine est d'abord cosmique, c'est un phénomène cosmique, impersonnel, sans sujet, sans d'autres sujets, cet intellect séparé. Toute la question est donc de savoir comment cette pensée devient, en même mouvement, de la pensée de quelque chose qui devient quelqu'un. Comment précisément, comment s'établit le terme latin, c'est continuatio ou copulatio, comment s'établit une jonction de contact entre cette pensée pure et les individus que nous sommes et qui, en tant qu'humains, pensent nécessairement. Et précisément, le lien, ce sont les images. C'est-à-dire que c'est en tant que mon corps est imaginant et qu'il n'y a pas de pensée sans image, donc en tant que je suis un corps simplement imaginant et non pas un sujet de la pensée. Je ne le serai jamais d'une certaine manière. C'est en tant que corps imaginant, en tant que porteur d'images plus ou moins affinées, que je me lis d'une manière vraiment singulière, chaque moment ponctuel, événementiel et éphémère relativement à l'éternité de la pensée, que je me lis à cette pensée pure. Donc effectivement, le corps là est totalement l'espace de transit, qui va être le corps employé, par le biais des images. Donc on a là avec. Je sais que Pierre Lévy, mais de ce que j'en ai vu, il semble-t-il, de façon assez maladroite, développe à un moment donné quelque chose sur Faraday, à propos de ça, sur l'intellect agent chez Faraday, à propos du virtuel, dans un de ses livres qui s'appelle Le problème du genre collective. Je ne suis pas sûr que c'était il y a très longtemps, mais ce n'est pas Faraday qu'il faut aller chercher, mais je vais faire un parallèle, c'est la pensée. C'est simplement de dire que la mémoire, ça m'a approché.
Non, déjà, il faut que j'avoue que je connais un Averroès seulement sur Manuel, hein, je ne le connais pas, et donc bon, merci. Et oui, c'est évidemment la question qu'il y a aussi dans De Anima, dans le troisième livre, dans le livre Dharma de Anima, je crois que... Et bon, déjà expliqué comme ça, oui, c'est tout autre chose, et je comprends mieux... Et je dis que oui, peut-être, c'est une structure semblable. Alors oui, on pourrait parler de pourquoi utiliser imagination plutôt qu'un autre terme. Oui, évidemment, mais là, alors je comprends, oui. Peut-être, alors, c'est une structure plus proche à celle que je disais. C'est simplement un problème de... ouais. Donc oui, ça. Et pour les anges aussi. Effectivement, c'est... Oui, évidemment, oui. Oui, 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 mais ça, c'est, je crois... Oui, je voulais, bon, je c'est une des idées que j'ai en tête, c'est d'étudier un peu mieux la philosophie médiévale pour
ce problème-là, parce que je crois qu'on peut trouver beaucoup dans ce sens-là. Après, il y a beaucoup de termes que, selon moi, on ne peut pas utiliser parce qu'ils sont après filtrés par toute... Bon, moi, quand je pense à l'imagination, toi, peut-être non, mais moi, je pense à Sartre. Et alors, c'est là le problème. Donc, bon, si on revient à Véroé, ça va, mais sinon, je crois, hein, mais je le dis comme ça, je crois qu'il faut changer les termes ou bien les expliquer de façon... Donc oui, mais la structure est celle-là. Donc oui, je crois que il y a une analogie des structures très frappante, oui. Et pour ce qui concerne les nouveaux, non, ça ne me choque pas, appropriation, ça me plaît, dans ce sens-là, ça me plaît. Nouveau, je l'ai utilisé ici, je ne le ferai jamais, je vous le promets, parce que c'était juste pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Comme je n'utilisais pas les termes de façon attentive, hein, je l'utilisais comme ça. Oui, appropriation, ça me plaît. C'est bon, comme il s'agit de production, comme il s'agit de quelque chose qui se déplace, comme il s'agit d'un mouvement, comme il s'agit d'un corps qui... peut-être incarne, hein, bon, là aussi, quelque chose, bon, écrit quelque chose, appropriation, oui, dans ce sens-là. Évidemment, il faut dire qu'après l'appropriation, il n'y a pas une propriété. Donc, c'est comme si chaque fois, bon, là, c'est intéressant du point de vue politique, qu'après chaque appropriation, il y a une expropriation. Donc, oui, dans ce sens-là, oui. On peut utiliser, c'est une appropriation comme c'est une appropriation le fait de passer par un point. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Bien.
Alors, puisque il y a ce temps de silence et de suspens. Eh bien, je vais vous rappeler que ça fait partie de notre processus, de notre programme, que nous aimons bien, tous ceux qui le veulent, qui le peuvent, qui ont le temps et le plaisir, nous aimons bien dîner ensemble après cela, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ces horaires. Et donc, en général, nous arrivons à trouver un peu de place dans un des restaurants voisins, et plus facilement qu'ailleurs, nous trouvons un petit restaurant grec qui se trouve en haut de la rue de l'école de médecine, qui s'appelle l'Acropole, mais nous pourrons changer d'ici peu. Nous n'avons pas de mise en relation organique avec eux. Nous voyons qu'il y a de la place, et que c'est facile et que c'est tout près. Merci beaucoup, Marcello, de ta proposition, et donc à tous, à bientôt, j'espère.